comme au moment de la sortie d'un fœtus, ceux qui ont fait des expériences de NDE, ils voient tous ces canaux, c'est pas hasard, c'est une canalisation. Et ce qui est fondamental dans le passage de la mort, au moment de la canalisation, un phénomène hyper important qui va se passer. C'est-à-dire l'individu va vivre pendant cette phase en réflexivité avec lui-même. Il devient son propre témoin. S'il voit tous les événements, il va se juger lui-même. Il devient son propre juge. Ce n'est pas Dieu qui juge. Il est au-delà de tout jugement. Qu'est-ce qu'il va avoir à faire avec toi? Est-ce que tu as fait le bien ou le mal? C'est des concepts de religiosité. Il est au-delà de tout ça. Mais toi, tu vas te juger toi-même parce que tu rentres dans un canal où il n'y a plus d'échange informationnel avec l'extérieur. Tu n'as plus la possibilité d'échanger comme maintenant l'information avec le monde extérieur. Tu vas changer l'information avec toi-même. Et là, tu vas te juger. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas que vous soyez dans la culpabilité et soyez dans le pardon. C'est par cet auto-jugement qui va devenir difficile à gérer. Par le passage au niveau du canal et par cette auto-réflexion des événements. On voit notre vie, on va juger chaque petit détail de la vie. Le temps va changer. Le temps n'est pas une constante, comme la science le dit. Le temps est une variable. Et le temps va épouser une autre forme pendant ce passage dans le canal. Et à chaque instant, on le voit en détail. Et une seconde peut durer des heures, des années. C'est-à-dire qu'il faut se libérer du canal. Il faut une énergie, une information qui nous purifie pour qu'on puisse sortir vers notre réalité essentielle, pour qu'on puisse se connecter à notre essence. Le passage dans ce canal est hyper important. Même au niveau fœtal, le canal, le fœtus va avoir énormément d'informations quand il passe dans le canal utérin, travers la mer. Et avec césarienne, on va lui enlever quelques informations qui sont indispensables à sa maturation neuropsychologique. Vous voyez, maintenant, c'est souvent, hop, césarienne, c'est plus facile, au lieu qu'il passe le canal, qui est un état physiologique. Et la mère, justement, elle-même a besoin de cette information pour son développement réel. Elle a besoin que cet enfant passe par le canal pour qu'il puisse actualiser le vortex dans sa conscience. Parce que ça, c'est un vortex. Trou noir, passe canal, sortie. Et quand elle actualise, elle devient une femme initiatrice. C'est ça le rôle de la femme initiatrice cosmique. L'archétype de la femme primordiale. On est en train de jouer avec la femme, on est en train de lui faire subir des choses qui sont en contradiction avec le principe même de la matrice unicitaire. Donc vous voyez que ce passage de ce volume vers le volume manifesté, il a nécessité 6 matrices principales. On parle des 6 jours de la création, on parle des 6 jours du passage dans le canal. 6 jours, c'est un jour en temps relatif. Mais le jour aussi, c'est une matrice. Le jour, c'est un espace temporel, temporo-spatial. Donc c'est une matrice. Par conséquent, les 6 matrices qui ont actualisé le monde phénoménal, le sang, quand je les prononce, ils sont toutes des matrices de force. Il a fallu une force, il a fallu 6 forces archétypales qui proviennent de la source pour faire sortir ce nouveau-né, cet univers dans sa phase non manifestée, vers sa phase manifestée. Je vous envoie à ce fameux formidable mystique chrétien allemand, Jacob Boehme, Bohème, je prononce mal, et qui a écrit, qui a parlé de ce passage comme étant, il l'a exprimé avec ces mots, la tragédie divine. Mais on peut se demander pourquoi ce nom manifesté qui est éternel, immuable, rien ne lui manque, parfait, pourquoi il cherche à se manifester? Parce qu'il y a dans ses matrices, au sein de ses 99 matrices, il y a 6 matrices qui vont actualiser la création. Et ce n'est pas une actualisation qui va se faire il y a 15 milliards d'années, elle se fait à chaque instant. C'est la cyclicité permanente. Nous, on a une pensée linéaire, on a un fonctionnement linéaire, un commencement et une fin. On est des êtres éduqués dans la linéarité pour qu'on puisse être des automates. Alors que la synchronicité, l'effet radiant de notre pensée et de notre conscience a été chanté. L'éducation nous a piégés en permanence. Elle nous a enlevé notre réalité et elle nous a propulsés dans l'illusion. Et on est rentrés tous par un consensus dans l'illusion. C'est ça l'illusion. C'est-à-dire prendre le réel, le faire passer au niveau de l'inconscient, et prendre un voile et prétendre que ce voile est réel. Et on va le démontrer maintenant. C'est la science qui va démontrer. Je vais vous démontrer d'une façon claire qu'on est dans un voile, dans une illusion. Ce n'est pas métaphysiquement ni spirituellement. C'est la science. C'est-à-dire que notre univers qui a été construit par 99 matrices, qu'on va enlever 6 matrices qui sont les propulseurs créationnels, on va trouver 93. Si je fais la sommation, je trouve un univers à 3 valeurs. Bien, on est dans un univers à 3 valeurs. Donc on a pu, par un système de jeu matriciel, révéler la nature trivalente, trilogique de notre univers. On a 3 cerveaux, 3 consciences, 3 logiques. On peut même aller au-delà et dire que l'homme a structuré 3 systèmes économiques, 3 matières. Mais on va essayer de comprendre d'abord les 3 matières universelles de notre univers. Parce qu'il y a 3 matières et la science s'est concentré sur une seule matière, et paradoxalement, c'est la seule matière qui est négligeable par rapport à la masse totale de l'univers. Donc on est en présence de 3 matières. L'astrophysique nous parle de cette structure. Il y a une chercheuse italienne qui s'appelle Conforto, Giuliana Conforto, qui a fait un travail formidable. Elle a démontré que dans notre univers, il y a 3 matières. Je résume. Il y a ce qu'on appelle la matière noire qui a, par rapport à la masse totale, en pourcentage, à peu près 25% de la masse totale globale de l'univers, la matière noire. Il y a ce qu'on appelle le rayonnement noir, qui est un pourcentage de 70% de la masse globale de l'univers. Et les 5% qui restent, c'est ce qu'on appelle la matière lumineuse, qui, elle, représente la matière qui va réfléchir les ondes électromagnétiques. La matière lumineuse est une matière qui se révèle à travers la lumière photonique. Les rayons de soleil, quand je vois un objet maintenant, c'est à travers la matière lumineuse. C'est elle qui rentre en dialectique avec la lumière photonique, la lumière électromagnétique. Donc la matière lumineuse est une matière qui est en résonance profonde avec le champ électromagnétique. Et puisque notre système neurosensoriel, notre cerveau, ne perçoit que 10% du champ électromagnétique et même moins, c'est-à-dire qu'à travers mes organes de sens, je vais rentrer en contact avec 0,5% de la masse et de la matière globale de l'univers. Il y a des chercheurs qui parlent de 0,05%. J'ai agrandi un peu. 0,5%. Ça veut dire que même si je mets un télescope ou un microscope pour amplifier mes organes de sens, qu'est-ce que j'étudie en réalité ? J'étudie la matière lumineuse dans sa structure la plus parfaite, mais je n'étudie que la matière lumineuse. J'étais éduqué à ne pas mettre en évidence dans ma conscience ni la matière noire, ni le rayonnement noir qui forme mon corps. On est de la poussière des étoiles. On est formé par cette masse, cette énergie et ce rayonnement. Notre corps, ce n'est pas que de la matière lumineuse. Mais on a été éduqué à prendre en considération que la matière lumineuse, à tel point qu'on ne voit, qu'on ne perçoit ni rayonnement noir, appelé noir par les physiciens parce qu'il est inaccessible à notre champ visuel, ni matière noire. Mais est-ce que notre cerveau est équipé pour percevoir cette matière ? Oui. Et comment ça se fait qu'on ne le fait plus ? Parce que par une pression éducative, on a enlevé cette plasticité nerveuse et les cerveaux rentrent d'une façon stéréotypée qu'avec la matière lumineuse. On ne perçoit que le champ, que la mouvance des champs électromagnétiques. Mais notre vie est entouré, cristallisé dans les champs électromagnétiques. Champs électromagnétiques pour amplifier la voix. Électromagnétique, la lumière. Tout ce qu'on voit comme lumière photonique, c'est-à-dire la lumière sans masse, le photon n'a pas de masse, par opposition à la lumière réelle, qu'on appelle la lumière lourde, qui, elle, a une masse. La lumière christique a une masse réelle. D'où la nécessité de faire la différence entre la lumière illusoire, photonique, éphémère et la lumière réelle, lourde, éternelle. D'où la nécessité d'intégrer une information magistrale au moment où on va quitter ce corps. Il peut y avoir des manifestations. On peut voir des archétypes de lumière. On va prendre cette lumière pour réalité. Ne pas prendre la lumière électromagnétique pour la réalité. La lumière électromagnétique est une lumière qui voile les autres lumières. La lumière électromagnétique, c'est le voile cosmique et qui a été entretenu pendant des milliers d'années au niveau de la conscience de l'homme. Je vous donne un petit exemple qu'on a fait dans un laboratoire au niveau pour vous démontrer l'apprentissage et la pression de l'éducation. À tel point, même chez l'animal, on peut jouer sur cette possibilité. On a fait une expérience, on a pris deux lots de chats nouveau-nés et qu'on a éduqué dans deux cages différentes. Une cage à barre horizontale et une autre cage à barre verticale. Et après une maturation, on appelle la maturation psychocognitive, nerveuse, on a changé les cages. Eh bien, les chats qui étaient élevés dans les cages à base horizontale ne voyaient pas les barres verticales et vice-versa. Ça veut dire que l'éducation cristallise un état de conscience, cristallise un univers, un environnement précis dans lequel on va vivre et on va complètement oublier le reste. C'est ce qui s'est passé pendant des milliers d'années pour l'homme. Il a été englobé par la matière lumineuse et à tel point qu'il a complètement oublié sa vraie nature multidimensionnelle. Les 99% de sa nature ont été occultés. 99%. C'est ça la tradition, l'ésotérisme ne parle de notre aspect multidimensionnel. Il provient de cette réalité scientifique. On a oublié ce qu'on est réellement. On a oublié. Notre réalité multidimensionnelle a été oubliée. Notre réalité illimitée a été complètement occultée par ce voile. Le voile en permanence nous cache notre réalité. Et le voile, on peut l'assimiler au cerveau limbique qui, lui, ne veut pas sortir vers l'inconnu parce que la vraie vie, c'est le fait d'exprimer l'instant d'une façon réelle, de vivre l'instant et de ne pas vivre un état temporel qui est linéaire et qui va en permanence chanter l'instant. Dans la linéarité, l'instant n'est pas vécu en vie. L'instant est déjà passé. Et on se projette dans le futur. En permanence, c'est ça notre vie. C'est-à-dire un jeu limbique, un monologue en permanence. Le limbique, le cerveau limbique fait d'un ensemble de croyances qu'on va prendre pour une réalité absolue. Qu'on va inhiber le cerveau préfrontal pour qu'il ne rentre pas en conflit. Et c'est ce qu'on appelle notre petite vie, pleine de sécurité, à la recherche d'une sécurité en permanence. Et la sécurité, le fait de chercher la sécurité, qu'est-ce qu'elle crée? La peur. On vit dans la peur. Les médias amplifient la peur. Par augmentation de soi-disant la sécurité. Quand on augmente la sécurité d'une façon paroxystique, la peur s'amplifie. Mécanisme de biofeedback. C'est-à-dire que cet esprit, ce cerveau plutôt, limbique, est le réceptacle de toute cette mouvance de croyance, ces automatismes, et il va en permanence être activé par le champ électromagnétique qui est une force réelle dans l'univers mais qui est minime et qui se présente comme étant la source parce qu'elle va voiler l'ensemble à se dire je suis la source. Le champ électromagnétique, c'est le voile qui nous oblige en permanence à rentrer dans ce monologue intérieur, à se fixer dans cette réflexivité en permanence et à être dans des automatismes, dans des réflexes, au lieu d'être dans la réflexion préfrontale qui va nous situer dans l'instant. L'instant, dont parlaient les grands mystiques. L'instant qui est révélateur de l'éternité et qui est révélateur de l'aspect radiant de notre temporalité essentielle. Donc, notre univers a trois valeurs, a structuré trois matières, mais on vit qu'en résonance avec une petite matière qui est matière lumineuse, qui est l'œuvre du champ électromagnétique. Les autres matières, abstraction, on ne connaît pas. C'est comme les petits chats. Quand on les met dans des cages différentes, hop, plus de vision. C'est-à-dire que l'homme a subi énormément d'endoctrinement à travers son évolution. Et ce voile a cristallisé un état de conscience particulier qu'on appelle l'éveil. Mais cet éveil est centré sur une prise de conscience de 0,05%, c'est-à-dire un éveil illusoire par rapport à la réalité de 99%. Donc l'illusion, ce n'est pas un concept métaphysique, c'est un concept réel par ce jeu de masse et d'interférence énergétique de force cosmique. Notre réalité est multidimensionnelle. L'infinitude qui va se loger dans ce corps, qui est pris en charge par le voile. Et je vois ce corps limité. Je le vois dans sa structure limitante. Il y a une souffrance qui s'installe, une souffrance chronique, inconsciente, et qui va en permanence nous habiter, tant qu'on n'a pas réalisé notre identité non manifestée. On peut avoir l'argent qu'on veut, plein des stars, au fond de nous-mêmes, tant qu'on n'a pas réalisé notre réalité. Ce qu'on est réellement, on va souffrir. Et cette souffrance nous propulse à la recherche d'autre chose. C'est pour ça que les jeunes, je suis content de la présence des jeunes avec nous, formidables. Et c'est une conséquence directe. Ils vont chercher la drogue parce que l'éducation les a propulsés dans des phases limitantes. Et ils sont plus conscients de cette souffrance qui les habite d'une façon inconsciente. Ils cherchent d'une façon ou d'une autre à sortir de cette limitation. Parce qu'il y a une voix intérieure dans leur conscience qui leur dit « Vous n'êtes pas cette limitation. » Mais quand ils prennent un peu de shit, ils sont dans des phases, je ne les encourage pas. Mais simplement, cette herbe leur donne cette vision encore illusoire, certes, mais parfois, elle stabilise leur souffrance. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas mis des outils dans l'éducation qui réveillent notre réalité. On n'a pas mis des outils. À 4 ans, ils vont à l'école, se conditionnent, perdre la plasticité nerveuse, se connecter à travers le voile et ils deviennent des automates. C'est un constat. Alors, quelle est la solution? Bien sûr, il faut avoir une solution. Depuis des années, quand j'étais médecin, j'étais un petit peu imprégné par des structures, des systèmes pour chercher ce qu'on appelle la transcendance. C'est-à-dire, on peut le définir ce concept de façon simple maintenant. On a les concepts pour le faire. Transcender, c'est aller au-delà du voile, au-delà du champ électromagnétique pour intégrer notre réalité globale. L'éducation ne nous a jamais donné un moyen de transcendance. L'enfant naît avec la transcendance. Souvent, on voit les enfants fermer les yeux et partir. Et les parents, ils disent, qu'est-ce que tu es en train de faire? Encore, tu es en train de rêver. Parfois, ils nous racontent des choses. La maîtresse l'inhibe, les parents l'inhibent, il perd, l'enfant perd la transcendance. Parce qu'elle est innée, la transcendance. Maintenant, il faut mettre des outils pour la retrouver. Transcendance qui est un mécanisme neurophysiologique, à tel point les structures neurophysiologiques de la transcendance sont en train de s'hypotrophier. Il faut les actualiser, les activer. Donc, la nécessité de trouver des outils pour activer le passage vers l'état de dévoilement. Pour aller au-delà du voile, au-delà de l'illusion, pour réintégrer notre multidimensionnalité. Je peux vous apporter mon expérience personnelle, parce que c'est ça, tout ce que je peux faire, apporter une expérience que j'ai vécue. C'est que le voile a nécessité un mécanisme de transcendance. Et j'ai essayé plusieurs outils. Plusieurs. Et quand j'ai essayé, dans une harmonisation, c'est récent ça, dans une harmonisation telle, la tradition védique et la tradition soufie, j'ai essayé les deux mécanismes. J'ai mis en place un système dans lequel on va mettre un mantra et un résonateur. Je vous explique. Le mantra provient d'une tradition ancienne védique. Et j'ai eu la chance d'être initié par des grands maîtres dans cette structure, dans cette impulsion. Donc c'est mon expérience, je vous raconte mon expérience. Et en même temps, j'étais imprégné par le soufisme depuis ma naissance, à travers ma mère, ma matrice, celle qui m'a initié au soufisme réel, d'ouverture, et non pas le soufisme traditionnel, orthodoxe, dogmatisé, qui est lié encore au cerveau limbique, soufisme révolutionnaire, où l'instant prédomine, et à chaque instant, il peut y avoir des événements différents, où on est capable de rentrer en résonance avec l'instant. On est capable de changer à chaque instant. On ne se met pas à l'abri dans notre esprit limbique, dans notre cerveau limbique, parce que le cerveau limbique déteste l'inconnu. Il a peur du changement. Il veut répéter les événements. Je rentre chez moi à la télévision. Je suis dans cet état limbique de perte de conscience. À la limite, je répète, puis je cherche un film pour oublier, pour disparaître, pour ne pas être dans ma réalité, parce que ma réalité profonde souffre. On est dans un univers complètement voilé par cette force électromagnétique. On est dans un univers qui n'est pas structuré dans l'impulsion de la source. La source a structuré un univers parfait, mais la conscience de l'homme s'est identifiée avec un voile et elle vit une déviation cosmique. Notre univers est teinté de souffrance. La souffrance est partout. C'est une réalité, c'est un constat. Donc la nécessité de mettre en place des outils. Et je vous ai dit que dans le soufisme que j'ai eu, à travers ma mère, et dans cette mouvance du cœur, l'ouverture du cœur, et j'ai essayé récemment d'unifier les deux tendances. Et à travers mes expériences, mes séminaires, mes formations, j'ai vu. Au départ, je ne donnais que le résonateur soufi, qui est une vibration structurée pour... Un résonateur est une vibration qui est structurée pour aller au-delà du voile. Quand on répète le résonateur, on peut être emporté par cette information énergie qui va nous propulser au-delà du voile. Avant, je donnais que les résonateurs que j'ai développés à travers ma démarche soufie. Et j'ai vu que les gens ont besoin encore d'un plus. Parce que le résonateur ouvre la porte, ouvre le voile, déchire le voile. Il subtilise les mémoires traumatiques. On appelle les matrices négatives, les matrices déconnexionnelles, qui nous oblige à se déconnecter de la source. On a énormément de matrices de ce genre. À chaque fois, quand on pense d'une façon qui n'est plus en résonance avec la source, on crée une matrice et qui devient, qui va nourrir le voile, qui va nourrir le champ électromagnétique se nourrit à travers les pensées perverses de notre conscience. Chaque fois qu'on stimule une pensée qui n'est plus dans sa structure, qu'on appelle orthologramique dans le jargon matriciel, c'est-à-dire une structure compatible avec la source, on va créer une matrice qui va nous éloigner de la source. Et elle va nourrir le voile. Donc un résonateur va déchirer le voile. Mais le mantra va accélérer le processus. Parce que le mantra, c'est une impulsion de la source. Le résonateur travaille en profondeur, il va subtiliser les mémoires traumatiques. Et le mantra, parce que j'ai couplé les deux, et le mantra va donner cette transcendance d'une façon rapide. Pourquoi ? Parce qu'on vit un temps accéléré, on a besoin d'une façon urgente de transcender. C'est devenu presque une urgence cosmique. Pas pour notre vie actuelle, durant ce passage du canal, pour qu'on puisse subtiliser le maximum de mémoire traumatique, le maximum de culpabilité qu'on a engendré, le maximum de matrices négatives qui vont entourer notre conscience. Il faut les subtiliser pour qu'on puisse faire l'expérience de notre réalité au-delà du voile. Donc, mantra résonateur est un outil qui va faciliter le dévoilement, qui va activer la transcendance et qui va nous permettre de retrouver notre réalité non manifestée, notre multidimensionnalité. Et progressivement, quand on va purifier les matrices endogènes, négatives, les mémoires traumatisantes, on va se rapprocher de notre réalité, de notre être-té, notre essentialité. On va se rapprocher progressivement. Et dans le rapprochement, la joie qui s'installe, le bonheur qui s'installe, et l'harmonisation des trois cerveaux. Le limbique va se taire, parce qu'il va être pris en charge par une structure plus évoluée, le préfrontal. Et ce n'est pas les cellules nerveuses du préfrontal, parce que les cellules nerveuses du préfrontal sont stigmatisées dans l'intellectualisation. Ce sont des cellules d'un autre type et qui sont 95% plus nombreuses que les neurones. On appelle les astrocytes, les cellules de la gliale, que la médecine n'a pas développé beaucoup de choses à propos de ces cellules. Si on dit c'est des cellules nourricières, mais en réalité c'est des astrocytes, des étoiles, en connexion avec les énergies du ciel, et qui vont amplifier la connexion avec la matière noire et l'énergie noire. Vous voyez que c'est plus un langage métaphysique. On a des structures, la science a fait des progrès énormes, elle a mis des concepts en place, mais elle ne finalise pas. Nous, on va rentrer, on va finaliser. Mais la grande réalité, c'est qu'il nous faut un outil pour expérimenter. Il ne faut pas que ce soit un discours intellectuel. Il n'y a pas de connaissance sans pratique. Il faut qu'il y ait cette méthode douce, sans effort, pour réintégrer notre réalité. La méditation, c'est un outil fait de résonateur, mantra, c'est nouveau, ça n'a jamais été fait ce travail. Ou bien on médite avec un mantra qui provient de l'Inde, maintenant on ajoute un résonateur qui est lui, on peut dire sur le plan de la charge conscience, il est plus léger parce qu'il est récent dans la structure. Le mantra est très ancien. Il peut être touché par cette charge psycho-affective collective. Donc, le couplage est intéressant pour favoriser cet élan de la transcendance. Mantra, résonateur, un outil formidable à expérimenter. Et c'est ce que je vous apporte à travers cette formation qu'on appelle l'approche matricielle. Durant la formation, au départ c'était 4 week-ends. Et j'ai vu que c'est trop, 4 week-ends. J'ai résumé en un week-end. Samedi, dimanche, je donne tout en un week-end de façon simple. Surtout l'initiation à travers le mantra résonateur. La compréhension de notre structure physiologique, neurophysiologique, de façon simple, sans rentrer dans les détails. Et je donne ce qu'on appelle les matrices agissantes pour stabiliser l'unicité, activer la non-dualité, parce qu'on vit dans la dualité. Le bien et le mal nous poursuivent en permanence. On dit, quand on va dans l'église, dans la mosquée, Dieu veut qu'on fasse telle chose. Dieu ne veut rien. Dieu ne veut rien, c'est ça la réalité qu'on doit prendre en considération. Dieu, il est au-delà de la moralité, de la dualité. La moralité, c'est l'homme qui l'a structurée. Donc la nécessité encore d'aller au-delà de la dualité et de mettre en place des structures nerveuses pour la non-dualité. L'unicité, la non-dualité est ce que j'appelle l'effacement matriciel qui est essentiel. Et c'est l'enseignement de Christos. Qu'est-ce que c'est que l'enseignement de Christos, le Christ, le Verbe, l'Esprit de Dieu, la manifestation de la matrice unicitaire d'une façon intégrale dans le phénoménal. C'est ça le Christos. Son enseignement est basé sur un concept, le pardon. Mais ce mot est chargé, extrêmement chargé. Tout le monde parle du pardon. Mais un pardon mentalisé n'apporte rien. Le pardon doit être structuré dans le non-voile, à travers la transcendance. Donc on amène aussi des outils pour que le pardon soit réellement intégré dans notre conscience. Parce que durant notre voyage, quand on va quitter ce corps, si on n'a pas pardonné, on va rester bloqué dans le canal. Nous-mêmes, à travers nos propres mécanismes, Dieu nous impose absolument rien. Il est au-delà de toutes choses, de toutes ces considérations qu'on a créées nous-mêmes. Donc c'est ça, la non-dualité, l'effacement cosmique, l'unicité et la transcendance. C'est les outils de l'approche matricielle qu'on essaye d'activer à travers la logique scientifique. Mais une logique qui n'est pas structurée dans la linéarité, une logique qui va être structurée dans l'aspect radiant de notre être, l'aspect radiant qui est en compatibilité avec la synchronicité et non pas en compatibilité avec la linéarité. Pour aller au-delà de la linéarité, il faut mettre en place des outils aussi au niveau de notre système nerveux. J'espère que je n'ai pas été trop abstrait. Et je vous laisse poser des questions. À travers les questions, on peut encore comprendre plus de choses. Et merci, mes chers amis. Merci. Merci.